Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, j'ai commencé à courir il y a quelques années, c'est ce que je vous raconte dans mon podcast Kilomètre 42. Mais il y a un élément sur lequel j'ai encore beaucoup de mal et je vais vous raconter une petite histoire. Logiquement, quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé par m'équiper, un short, chaussures, écouteurs, puis je me suis lancé dans l'entraînement, courir régulièrement, suivre plus ou moins des plans d'entraînement. Mais quand est arrivée ma première course, j'avais oublié un truc important, mon alimentation pendant l'effort, ce fameux carburant, d'autant plus important quand les distances s'allongent, que les heures d'entraînement augmentent, que les défis deviennent plus importants. J'ai ainsi appris que la performance sportive repose sur trois piliers, l'entraînement, l'équipement et la nutrition. Et j'ai justement créé ce nouveau podcast avec Apirun, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance, pour arriver à connaître les secrets de nutrition des athlètes qui nous entourent. Nous allons partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive pour leur demander leurs astuces. Comment ils font pour s'entraîner, comment ils font pour se nourrir quand ils s'entraînent, quand ils sont dans la performance. Et mon premier invité en connaît un rayon, il est officiellement le numéro 25, mais aussi à jamais le premier. Non, pas seulement le premier invité et un peu le parrain de ce nouveau podcast, mais surtout le premier français et 25e athlète à avoir bouclé victorieusement l'Enduroman. Oui, ce triathlon entre Londres et Paris en traversant la Manche à la nage. Et en plus, il l'a fait en battant largement le record. Alors autant vous dire que j'étais curieux de savoir comment préparer une telle course, quelles sont ses stratégies pour s'alimenter, comment nous pouvons nous préparer, quels sont les secrets, est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner à mieux manger, est-ce qu'on peut prévoir tout ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'il y a dans les fameuses petites gourdes qu'on leur tend quand ils sont en train de nager. Enfin, bref, tous ces secrets-là, je lui ai demandé ses recettes, ses petits conseils, ses astuces, comment nous aussi nous pouvons appliquer des conseils nutritionnels pour notre propre performance. Je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Cyril Blanchard. Bonjour Cyril.
Et bonjour à tous les auditeurs de ce super podcast.
Eh ben, merci à toi et bienvenue. Tu es le premier invité de notre tout nouveau podcast. Et alors vraiment, je suis impressionné parce que j'ai face à moi un enduroman et je me dis, mais c'est quand même dingue de se lancer dans un défi comme ça. Alors, je vais te laisser te présenter, bon, même si bien sûr, j'ai déjà parlé de l'enduroman, mais je vais... comment tu te présentes? Quel est ton parcours pour que les auditeurs, ils arrivent à te situer.
Comment je me présente? Je suis Cyril Blanchard, j'ai 46 ans, passionné de triathlon, mais surtout et avant tout de nature, de sport aventure, sport découverte, sport partagé. Et donc ça me suit depuis que je suis tout gamin. Moi, j'ai découvert la natation dans un premier temps, et puis c'est qu'à l'âge de à peu près 20 ans que je me suis mis à courir et à pédaler, parce que j'avais un pote qui faisait du triathlon, Racing Club de France, et je me suis passionné pour ce sport-là. Et puis à côté de ça, passion, non, c'est pas une passion, mais c'est juste entrepreneur. C'est mon job, je suis entrepreneur, j'ai dirigé des grands magasins. Et donc voilà, entre vie familiale, vie professionnelle et vie sportive, j'ai une vie que j'aime bien remplie. Et à 40 ans, pour mes 40 ans, je voulais faire le Northman. Le Northman, donc superbe épreuve dans les fjords, et j'ai pas été pris, j'ai pas été retenu. Donc je me suis inscrit à Pro Swissman, j'ai pas été pris non plus. Tirage au sort. Donc j'étais très nerveux, très excité, très énervé pour mes 40 ans. J'ai pas pu faire les épreuves de rêve que j'imaginais. Donc en fait, je me suis dit un jour cette même année, j'ai découvert cette épreuve, l'Enduroman, donc le triathlon entre Londres et Paris. Et je me suis dit, puisque celle-ci, personne ne veut la faire, il y a de fortes chances que je sois pris sur ce tirage au sort. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure à l'âge de 40 ans.
Oui, alors, c'est d'ailleurs une caractéristique, c'est que tu es le premier Français à avoir fait l'Enduroman, en tout cas à l'avoir fini. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'avaient tenté avant.
Il y en avait d'autres qui l'avaient tenté, ouais. Et puis moi, c'est ça qui me plaisait aussi dans cette inscription, c'est que j'étais potentiellement le premier Français à terminer cette épreuve de fou.
Oui, et donc, tu l'as terminé, tu as battu le record, tu as été recordman pendant assez longtemps, même. D'ailleurs, j'ai l'impression, même si là maintenant, le record a été battu.
Ouais, j'ai eu la belle surprise, surprise oui et non, parce qu'en fait, moi... c'était pas prévu sur le programme quand je me suis inscrit de battre le record. Moi, je voulais juste le terminer, ce qui était déjà un superbe défi en soi. Mais je me suis fait accompagner d'un préparateur mental qui a cru en moi, et sa confiance dont il m'a témoigné m'a fait croire que je pouvais battre le record du monde qui était détenu par un Australien en 61h30. Et la belle histoire fait que j'ai battu ce record au mois de juin 2016, et je l'ai détenu pendant 3 années. Et au cours de ces 3 années, un truc sympa qui s'est passé, c'est qu'un Français m'a dit, Cyril, j'aimerais battre ton record et j'aimerais que ce soit toi qui m'entraîne. Et là, j'ai dit, waouh, génial. Et c'était Lionel Jourdan, dont je l'ai préparé, accompagné pendant 2 ans avec Cédric Fleurton. On a été deux à le coacher. Et l'année dernière, en 2000, donc 2020, en plein confinement, hein, avec tous les problèmes qu'il a pu y avoir, il a battu le record du monde et il l'a fait en moins de 50 heures.
Oui, parce que j'ai vu son temps, mais c'est juste hallucinant. Enfin, le temps, en fait, il met 10 heures de moins que toi, quoi.
Ah ouais. Ouais, moi je m'étais dit en faisant, quand je l'ai fini cette épreuve, je me suis dit, bon, je pense raisonnablement moins de 55 heures sans problème. Et après, moins de 50 heures, on en est vraiment sur du professionnalisme pur. Faut être pas pro, mais faut s'y consacrer plus que professionnel. Moi, je reste un amateur. Et quand il y a un Belge qui a battu le record l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, ça fera 2 ans cet été. En 52 heures, on s'est dit, oula, il a pulvérisé le truc, moins de 7 heures, enfin, bat le record. Et puis, une semaine après, il y a un Indien qui sort de nulle part et lui, bat le record à nouveau de 2 heures. Et là, je peux te dire que Julien, le Belge, il était sacrément déçu parce que là, il avait en travers, quoi. Il s'est dit, en battant le record de 7 heures, il va falloir s'accrocher. Bref, il a été battu une semaine après. Et nous, l'année d'après, avec Lionel, on s'alignait sur le truc. C'était le seul athlète à se présenter l'année dernière. Avec le confinement, tout a été compliqué pour tout le monde. Et lui, il est allé au bout du rêve et du défi et il a battu à nouveau ce record en 1 heure, quoi.
Oui, et c'est incroyable. Alors, j'ai regardé ce matin ton TEDx sur où tu racontes notamment plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Il est passionnant ce
Je te
TEDx.
remercie.
Il donne un peu le frisson et tout. Puis tu parles d'amour, tu parles de respiration, tu parles de parcours. Parce que on a l'impression, comme ça, dit comme ça, que quelqu'un qui fait l'enduromane. Donc, rappelons quand même le concept de l'enduromane pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que finalement, nous, moi, je dois être la troisième personne qui a fait l'enduromane à laquelle je parle. Donc, moi, le concept de l'enduromane, je l'ai bien en tête, mais je vais te laisser rappeler quand même le principe, le concept, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas en tête.
Déjà, moi, ce qui me plaisait dans cette épreuve, c'est que c'était pas une boucle. On partait d'un endroit pour arriver à un autre. Donc, c'était Marble Arch depuis Londres jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, ça, je trouvais ça déjà mythique, génial, cette idée-là de créer cette épreuve-là qui a été créée en 2001 par un Anglais qui a fait ça pour se faire plaisir. Et après, il y en a d'autres qui se sont dit, est-ce que je peux le faire? Et donc, il a créé le concept Enduroman. Donc, c'est 140 km en courant de Londres à Douvres. Ensuite, la traversée de la Manche à la nage. Donc, un vol d'oiseau, une trentaine de kilomètres, mais avec les courants, les marées, etc. Bon, on fait entre 50 et 60 km, voire plus. Et après, on termine à vélo entre Calais et Paris, un petit 270 km. Voilà. Et ça, sans que le chrono s'arrête, évidemment. Donc, chacun gère sa récupération. Mais globalement, à partir du moment où le chrono est lancé à Londres, il ne s'arrête pas jusqu'à Paris.
Oui, et donc tu racontes ça, tu racontes avec beaucoup d'humour en plus, hein, je trouve l'histoire de l'anecdote. Je regarde devant, puis je regarde derrière, je vois qu'il y a encore l'Angleterre qui est pas si loin que ça. Non, mais je me dis, bon, déjà pour se lancer, traverser comme ça la Manche, etc., puis surtout après avoir couru, puis en se disant il y a encore du vélo, etc. à faire, je me dis quand même, il faut avoir une vision, une gestion de son corps, de sa connaissance de son corps, et tu le dis. Vraiment très bien en plus, hein. Tu dis, j'ai développé de sacrées compétences mentales, développé un physique à toute épreuve, et maintenant j'écoute mon cœur. C'est le message, un message fort de ton TEDx. Et en fait, donc ma question de départ, c'était de dire, on a l'impression que c'est un peu surhomme de faire ce genre de choses, et pourtant, quand tu racontes, mais plein de péripéties qui finalement, même quand tu étais finalement à la fin de l'adolescence, on t'a dit que le sport, c'était pas pour toi.
Oui, moi j'étais pas destiné à être sportif, encore moins sportif de haut niveau, et pas les conditions physiques, je les ai jamais eues. Hein. Moi j'ai déjà fait mes tests pour voir un peu ma VO2, tout ça, quoi, toutes ces choses-là, les tests qu'on fait à l'armée aussi, pour ceux qui ont connu l'armée de ma génération, j'étais franchement pas brillant, quoi. Hein. Donc mes compétences, je les ai développées au fil du temps, au fil des années, et à me renforcer musculairement, physiologiquement, mais mon cœur, lui, était assez limité. Je suis asthmatique et j'ai un souffle-cœur de naissance. Mais bon, voilà. Les choses sont faites avec l'année. Je pense qu'avec l'expérience, il y a des gens qui arrivent à maturité très jeune au niveau sportif. Moi, je suis arrivé à maturité très, très tard. Et voilà, je tenais à le partager dans ce TEDx parce qu'en fait, la personne qui m'a accompagné sur cette prise de parole, sur ce talk, m'a dit, Cyril, tu as une singularité et j'aimerais bien qu'on l'explore ensemble. Je dis, oh, super, on va parler d'un record, on va parler de ce que j'ai fait au niveau sportif, génial et tout. On va parler de dépassement du mental et tout, parce que j'aime bien, tout le monde me l'a dit, Cyril, si t'es plus fort que les autres, c'est parce que tu as un mental, etc. Et ça là, qui m'a coaché pour faire ce TEDx, il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. C'est finalement, c'est assez commun ce que tu me dis. Par contre, il y a une sensibilité que je sens et j'aimerais bien qu'on en parle. Ah, je lui ai dit, non, mais ça, moi, je ne veux pas parler de sensibilité. Tu sais, ça, c'est montrer ses fragilités, montrer qu'on a des fêlures, montrer qu'on n'est pas parfait. En fait, c'est contre-intuitif pour moi. Moi, je cherchais une forme de perfection dans le sport. Et là, ça me dit, ouais, mais tu as réussi à faire un truc peut-être parfait, mais tu n'es pas parfait. Et c'est cette fêlure, j'aimerais que tu me parles. Et là, il a commencé à me parler avec ses tripes dans mon cœur, dans mon âme. Et là, il me dit, Cyril, si toi, quelqu'un comme toi, qui a fait l'entrepreneuriat, qui a fait des trucs de fou dans le sport, tu arrives à parler de ce qu'on peut faire avec le cœur, là, je pense qu'il y a un message sympa quand même qu'on peut retenir et qui parlera aux gens.
Oui, et donc je recommande, hein, je mettrai vraiment un lien dans les notes de l'épisode parce que c'est, bon, les TEDx, c'est un conseil, c'est que ça dure 19 minutes au maximum, donc c'est vite vu, ça passe très vite, c'est plein d'humour, c'est touchant. Et donc tu parles de la force de l'amour, de respirer, etc. Et finalement, on va en arriver sur le sujet de cet épisode de podcast, on va parler de nutrition et finalement, on se dit que toi, tu parles de compétences mentales, de physique, etc., mais que tout ça, il faut le nourrir par l'alimentation, etc. Tu disais que tu as des préparateurs. J'imagine quand on prépare, parce que tu avais fait de l'Ironman avant, là, tu te lances dans un défi qui est... Enfin, c'est un Ironman fois... je n'arrive pas à faire le nombre de calculs.
XXX.
XXX. Je me dis que quand on approche ce genre d'épreuve-là, on ne peut rien laisser au hasard, notamment sur le fait qu'il va falloir avoir du carburant pendant 59 heures, quoi.
C'est un peu l'histoire de la vie, hein. C'est, si on veut vivre longtemps et bien, il va falloir se nourrir au sens propre et figuré. Et sur un enduroman, on est non pas sur une gestion courte de l'effort, mais une gestion longue. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu un concentré de ce qu'on peut vivre dans une vie, quoi. Donc, bien dormir, bien récupérer, même si on dort pas beaucoup, mais il faut récupérer, sinon on n'y arrive pas au bout. Bien se nourrir, s'entourer de bonnes personnes. Et puis après, avoir une activité corporelle qui ne soit pas épuisante. Donc, trouver de l'aisance dans un truc qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est contre-intuitif, mais c'est possible. Donc voilà, quand on met toutes ces choses bout à bout, en fait, on est sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, pourquoi je prends ce mot barbare? Parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance d'être mentorisé, entre autres, par Joël Deroné, qui est un mec absolument génial, un biologiste, et qui vulgarise beaucoup de choses par rapport à son expertise, son expérience, et parle beaucoup d'épigénétique. Et en fait, on est sur les piliers de la santé. Les piliers de la santé, je les ai dit, hein, si on veut vivre bien longtemps et jeune, vivre vieux mais jeune, c'est bien dormir, bien se nourrir, s'entourer de belles personnes, avoir une activité physique et gérer son stress. Donc dans cette épreuve-là, pour moi, le vrai défi, c'était là-dedans, c'était le stress, quoi. Parce que déjà dans la préparation, tout le monde disait « t'es fou, ça sert à rien, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? C'est n'importe quoi, t'es débile, n'importe quoi, bref. » Donc forcément, il faut être un petit peu sûr par rapport à ça. Si on ne se protège pas, forcément, ça va pomper beaucoup d'énergie. Le carburant va, voilà, c'est les ondes négatives, en fait, et elles te pompent ton énergie. Et après, pendant aussi, évidemment, parce que pendant, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses improbables qui arrivent. Et si on n'est pas un petit peu agile ou si on surfe pas sur ces événements-là, en fait, on va à contre-courant et on dépense trop d'énergie. Et voilà, et là, ça, c'est une source de stress et ça bouffe, ça bouffe tout ton carburant.
Effectivement. Alors, en plus, moi, le sentiment que j'ai quand je vois ça à l'extérieur, je me dis quand même, la partie course, est-ce qu'il y a beaucoup d'aléas sur la partie course? Alors, je dis ça, mais dans un autre podcast, j'ai reçu Arnaud de Mister qui a vécu un enduroman, mais la partie course ou la flotte, c'est un truc incroyable. Donc, je me dis, bien sûr qu'il y a de l'aléa, mais on a l'impression que la manche, c'est un aléa où il n'y a rien qui est calculable, où il peut arriver n'importe quoi. Alors que finalement, on se dit, sur la partie course à pied, on peut s'entraîner plus facilement pour le faire, non?
Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est la gestion de l'imprévu. Parce que la petite histoire ou la grande, je ne sais pas d'ailleurs, à la fin de cette aventure, quand je suis arrivé à l'Arc de Triomphe, il y a deux personnes importantes dans ma vie qui me disent « Cyril, maintenant, il faut que tu écrives le livre ». J'ai à peine arrivé, qui m'aide déjà sur un autre défi, un autre projet. Et forcément, comme il y avait Laurence, ma chère étante, qui m'avait dit ça, je pouvais pas elle avait sacrifié aussi pas mal de choses pendant un an dans cette préparation où je travaillais, hein, je continuais de travailler, je faisais pas que ça. Et donc, quand elle m'a dit, faut que tu écrives le livre, je dis, super défi. Allez, puis ça me remet en dynamique. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Et Laurence m'avait dit, t'écris le bouquin parce qu'en fait, t'es le premier à l'avoir fait. Et j'ose espérer, j'ai envie d'imaginer qu'il y a plein d'autres Français qui vont le terminer et grâce à ce que tu as à leur partager. Donc, je l'ai marqué dans le bouquin, tout ce qui m'a permis de réussir cette épreuve. Et notamment, pour répondre à ta question, la gestion de l'imprévu. D'ailleurs, Lionel, que j'ai accompagné pendant 2 ans sur ce projet, quand il a battu le record, il m'avait dit, Cyril, moi, je veux que ce soit toi qui me drive, qui me coach, parce qu'en fait, tu es extrêmement carré. Et quand j'ai lu ton bouquin, j'ai vu que tu avais vraiment tout préparé, absolument tout. Et moi, je suis un peu psychorigide. J'ai besoin de quelqu'un comme toi qui me rassure et qui me conduise vraiment avec un plan très séquencé et qui va pas de A jusqu'à P, mais de A jusqu'à Z, quoi. Et par contre, ce que j'écris dans un des chapitres, c'est parce que tu as tout prévu, tu laisses place maintenant à ton agilité pour t'adapter face à l'imprévu. Et l'imprévu, il est partout sur cette épreuve. En course à pied, évidemment, parce qu'en fait, tout le monde croit que c'est plat entre le Londres et Louvre, mais c'est pas plat du tout. Il y a des côtes et surtout à la fin. Et puis en plus, il y a un parcours qui fait qu'il est très. T'as les 15 dernières bornes qui sont atroces, quoi, parce que t'es le long de. Tu crois que t'as fini, t'es à Folkestone, et en fait, jusqu'à Douvres, c'est interminable. T'as des voitures qui sont à côté de toi, t'as des orties, t'as. Enfin bon, bref, c'est. Le parcours course à pied, il est absolument dantesque. Alors quand tu sais ça, tu te dis, ouais, il y a la manche derrière en plus, quoi. Et là, c'est plus dantesque, c'est mythique, quoi. C'est même mystique. C'est l'Everest de la nage. Et là, effectivement, il y a plein d'imprévus, plein de choses imprévisibles, et il faut s'adapter en permanence.
Comment donc, pour revenir sur la nutrition, finalement, quand on part sur au point de départ, est-ce que tu sais, est-ce que tu es en mesure de savoir comment tu vas t'alimenter? Bien sûr, mais quelle est la consommation? Comment tu peux prévoir ça? Comment tu as pu imaginer ça? Et finalement, alors je dis pas, comment est-ce que justement tu arrives à prévoir tout de A jusqu'à Z? Qu'est-ce que tu t'étais dit qu'il faut absolument que tu n'oublies pas des choses, qu'il y a des. Comment tu as fait des tests, en fait? Moi, j'ai envie de savoir un peu la mécanique qu'il y a derrière, se dire, mais comment on arrive à monter un projet comme ça, quoi?
Ouais. Alors, tu vois, j'aime bien l'idée de tout prévoir de A jusqu'à Z et on se dit que c'est fini. Mais non, parce qu'après, il y a l'alpha, l'oméga, etc. On ne parle pas que dans le on n'est pas que dans notre monde à nous, voilà, pour tout gérer, parce qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre du sensoriel, du subtil, où là, on n'est plus dans le même registre. Et c'est là qu'on va pouvoir s'adapter face à ces imprévus. Alors, pour la nutrition, moi, il y a un truc qui m'a toujours effaré dans les courses, c'est qu'il y a plein de mecs, plein de filles qui, le jour de l'épreuve, vont tester des trucs pendant la course. Ah ben ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. On teste toujours tout à l'entraînement, tout, que ce soit le matos, que ce soit la dureté de l'effort. Donc, train hard, voilà. Si tu t'entraînes dur, c'est facile à l'entraînement, c'est facile en course, quoi, en fait, finalement. Donc, voilà. Donc, c'est pareil dans la nutrition. Tu vas t'entraîner, tu vas tout tester, tous tes protocoles. Et puis après, le jour J, tu vas mettre en place ce que tu as prévu. Mais comme tout est prévu, tu vas pouvoir laisser être beaucoup plus aiguisé, plus affûté par rapport à tout ce qui va se passer autour de toi, les événements, les circonstances, les choses imprévues, et qui vont te permettre de t'adapter. Ah bah tiens, j'ai une petite crampe à l'estomac qui est en train d'apparaître, ça c'était pas au programme. Justement, je vais m'adapter. Donc j'ai mon programme qui est prévu, mais j'ai l'agilité, la plasticité neuronale qui me permet de m'adapter en permanence après, de faire les bons choix, de bien piloter tout ce qui se passe.
Bah, tiens, c'est un exemple intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut s'entraîner à lutter contre une crampe à l'estomac? Est-ce qu'on a moyen de. Alors, je n'ai pas envie de la créer à l'entraînement, mais est-ce qu'on a moyen de finalement de se préparer à savoir comment on va la gérer?
En fait, il suffirait simplement sur des entraînements de prendre des surdosages en sucre, par exemple. Parce que souvent, sur des épreuves de long, enfin voilà, sur des Ironman ou sur des ultra trails, il faut quand même savoir plus d'un abandon sur deux, on va dire 60% à peu près, sont liés à des problèmes gastriques. C'est quand même dommage. Donc, justement, à l'entraînement, j'ai peut-être testé des choses. Tester des choses qui sont hyper avec un index glycémique fort, ce qui n'est pas forcément bon parce que tu vas faire des montées de glycémie et après tu auras une chute de glycémie. Donc on est en termes d'énergie, c'est pas bon. Mais aussi et surtout, ton estomac va saturer au niveau justement ce que tu dis, tu peux te générer tes propres crampes comme ça. Alors maintenant, est-ce que c'est intelligent à faire? Je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il faut surtout habituer notre corps à faire des choses à l'entraînement qu'il saura faire en course. Il va reproduire. Et du coup, il n'y a plus de problème. Tu n'as plus du tout ces soucis-là. Hein. Si tu fais bien le travail en entraînement, en faisant tes propres erreurs, hein, et puis a priori, tu ne les reconduiras pas le jour de l'épreuve. Alors moi, j'ai une technique pour ça. Sur chaque entraînement, je me fixe un objectif. Alors il peut être effectivement, comme le coach ou comme sur le programme le prévoit, on va faire un peu de seuil, on va faire un peu de VMA, etc. Donc j'ai un objectif, et à la fin de chaque séance, hop, est-ce que j'ai atteint l'objectif? Oui, non. S'il est atteint, je fais une pause là-dessus, et je me satisfais, je me congratule, etc. Et l'air de rien, j'enregistre. Je cérébralise les choses et donc j'ensemence mon subconscient avec cette capacité que j'ai eue à atteindre mon objectif. Si j'ai pas atteint l'objectif, Inversement, je me dis pas je suis nul, je suis une merde, etc. Je suis un gros boulet. Non, on se dit bah tiens, pourquoi j'ai pas réussi mon objectif, pourquoi je l'ai pas atteint. Je trouve une clé d'amélioration pour la prochaine fois et justement je la teste la prochaine fois. Test, learn, invest. Je teste, j'apprends des, je tire des enseignements de ce que j'ai fait et après j'investis justement, j'automatise les choses qui fonctionnent. Et dans la nutrition c'est pareil. Je vais faire la même chose, je vais tester, je vais apprendre de ça et après j'automatise des choses qui fonctionnent bien pour moi et ce qui ne fonctionnera pas forcément d'ailleurs pour tout le monde parce qu'on entend tout le temps dire « Ah, moi je fais ça, tout le monde fait comme ça, bon bah, ok, bah, je vais faire comme tout le monde ». Il ne faut juste pas oublier qu'on est quand même un petit peu tous différents d'un point de vue systémique et donc forcément au niveau nutrition, il y a des choses qui vont marcher pour certains et d'autres pas.
Oui, et j'ai même envie de dire que des fois ce qui marche un jour ne marche pas le lendemain.
Exactement.
Et je me suis dit, en plus, sur une épreuve comme ça, où il y a le stress, où il y a l'enchaînement, où il y a plein de choses comme ça, je me dis, il y a quand même eu, à un moment donné, des surprises, même pour l'ultra-prévoyant. On parle de la plasticité, de se dire, on va s'adapter, de l'agilité, etc. Ouais. Je pense qu'il y a quand même des surprises, même sur le plan alimentaire, mais en se disant, j'ai tout testé, quoi.
Ah bah, des surprises, j'en ai plein. Je les raconte dans le bouquin, dans le bouquin en général, même lors des podcasts comme avec toi. Ouais, j'en raconte plein des anecdotes parce qu'il y en a tellement sur 60 heures ou 50 heures d'effort maintenant. Il y a quand même des choses à raconter. Donc, moi, en matière de nutrition, ce que je peux, l'anecdote, non, j'ai pas vraiment une anecdote parce qu'en fait, je voudrais bien parler de la manche, en fait, parce que la manche à la nage, déjà manger, se nourrir quand on est allongé pendant 10 heures, 15 heures, 20 heures pour certains. Lionel a fait en 17 heures hein, quand même. Donc pendant 17 heures, quelle stratégie nutritionnelle je vais avoir, sachant que en position allongée, on ne va pas digérer aussi facilement que quand on est debout. Ben, en fait, là évidemment, il y a plein de choses à tester. Et moi, pour le coup, j'avais testé un protocole tous les quarts d'heure. En fait, je m'alimentais tous les quarts d'heure.
Oui, parce que c'est ce que j'ai vu en fait, cette histoire-là, que tu le dis dans le TEDx, hein, on tend une petite perche tous les quarts d'heure. Ouais. Et je me suis dit, mais il y a quoi au bout de la perche?
Alors, il y a du homard, il y a des huîtres. Non, il y a tout sauf du salé parce qu'en fait, dans la mer, tu bois quand même vachement la tasse. Hein, et au bout d'un moment, entre l'eau saline, le carburant aussi, parce que c'est un goût de pétrole, hein, l'eau dans la Manche. Hein, c'est pas qu'une eau salée comme dans la Méditerranée. Hein, c'est assez dégueu. Donc, en fait, tu vas prendre des choses qui sont assez alcalines et qui vont apporter voilà, un peu de quelque chose qui passe bien. Quoi. Et en plus, tu vas prendre, nous, ce qu'on prenait, enfin, moi, ce que je prenais avant et parfois de temps en temps, c'est je ne sais plus quel médicament là, un peu pâteux qu'on prend quand on a la gorge raclée. Là, et ça fait du bien aussi. Prenez pas mal de miel aussi, du miel. Des compotes de pommes, pas trop sucrées, même sans sucre. Voilà, des champs de choses-là qui font du bien et qui aussi dont tu as envie. Et puis après, le truc sympa pour répondre un peu à ta question. Ah si, j'ai une vraie anecdote, tiens, j'en ai une sympa, c'était plus à vélo. Parce qu'en fait, en vélo, j'avais tout mon protocole qui était prévu. J'ai fait deux erreurs. Enfin, une vraie erreur, c'est de prendre un Red Bull, à aller sur la fin, j'étais à 57 heures, 56 heures d'effort. Je me suis dit, je vais prendre un Red Bull parce que j'arrive à Paris. Et à Paris, il y a les bouchons. Donc, tu restes dans les bouchons, tu commences à t'endormir un peu. Donc, je vais prendre un Red Bull. Donc, désolé pour la pub. Et là, pour le coup, ça m'a tordu les boyaux. Quoi. C'était le truc à pas faire. Quoi. J'ai rien contre cette marque-là. Hein. Mais par contre, ça n'a pas eu du tout l'effet que j'aurais imaginé. Quoi. J'en bois jamais de cette boisson. Pardon. Et donc, il faut le savoir. C'est contre-pub ce que je dis, mais je me permets quand même. Il y a un type qui a traversé la Manche à la nage, qui a tourné, pas sur l'enduroman, hein, qui a fait cette épreuve-là. Il a tourné à une de ces boissons-là, ça ne doit pas être celle-ci, c'est peut-être une autre. Il a le palpitant qui s'est emballé, il a fait une arythmie cardiaque et il y est resté, le pauvre. Hein. Enfin, le pauvre, c'est sa famille, les pauvres. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il faut quand même être conscient quand même de ce qu'on prend aussi en matière de nutrition, on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Donc moi, c'était mon erreur, mais l'anecdote rigolote, pour quand même beaucoup plus sympa, c'est qu'à l'arrivée de Paris, j'avais un de mes copains qui était en assistance qui, lui, me mangeait une marque de cracotte, un truc dans le genre au chocolat, là, et je déteste ça. Hein. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai eu envie de ça et j'ai terminé les derniers kilomètres, pendant 3 heures avec ça, et ça m'a mis vraiment en appétit. Quoi. J'avais faim de ça. Alors, c'est un truc dans la vie de tous les jours, jamais, jamais je mangerai ça. Quoi. Bon, c'est une petite erreur, mais comme c'était à la fin, ça va, c'est passé. Quoi.
Oui, mais je me dis, à la limite, ça peut faire partie. Tu vois, c'est une question que j'avais à poser sur la fin, c'est que ça peut être. Tu peux avoir dans des entraînements, puis quand tu pars sur des longues sorties, des choses comme ça, parce que tu racontes que il t'arrive d'aller courir de nuit, de faire des grandes sorties, des choses comme ça, parce que finalement, on parle de l'enduroman, mais tu t'es pas arrêté à l'enduroman, hein, t'as pas arrêté de bouger après. Tu peux avoir des choses qui, tu sais, des petits secrets inavouables, tu vois. Un jour, il y a un coureur, un invité m'avait dit bah, moi, j'ai des petites fraises en sucre, tu vois, des petites tagadas comme ça dans mon sac. Au bout de 10 heures de course, j'aime bien en manger une, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est pas illogique qu'on ait ce genre de. Je sais pas si c'est du réconfort, un truc auquel on s'accroche, qui nous change un petit peu.
Ah bah, tu as tout à fait raison. En fait, c'est le cinquième pilier un petit peu de la santé, c'est de se faire plaisir, quoi. Et les plaisirs des uns ne sont pas ceux des autres. Et des fois, c'est des choses qui vont être soit au niveau nutritionnel, d'autres, ça va être au niveau soit olfactif, une odeur un peu étonnante qui te stimule, qui te fait du bien. D'autres, ça va être une couleur, enfin des visions. Voilà. Donc, les plaisirs en général, en France, on aime bien plutôt tout ce qui va être charnel et tout ce qui va être gustatif. Et moi, j'en fais partie. Et d'ailleurs, avec mes amis là, qui sont des sportifs de haut niveau, bien connus d'ailleurs, enfin, on n'exclut jamais de se faire plaisir avec des bonnes bières. Hein, voilà, donc ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, je suis un fan de bière, quoi.
Bon, on va le dire, est-ce que ça marche bien pour la récup ou pas, ou est-ce que c'est une légende cette histoire de la bière de récup?
Il y en a une que je dois tester là, à base de miel, qui a l'air bien sympa. Donc j'ai pas encore testé, je l'attends. Mais bon, non, bah, la bière, est-ce que c'est bon ou pas bon? En tout cas, one pleasure a day keeps the stress away. Donc même si au niveau nutritionnel, corporel, etc., c'est pas toujours super bon, faut pas abuser des bonnes choses. Mais quand même psychologiquement, ça va compenser largement et ça fera du bien, quoi. Voilà.
Pour revenir sur ces histoires, parce que bon, t'as été Ironman avant d'être Enduroman, hein, quelle est la différence pour toi quand tu penses notamment sur la partie nutrition, sur le carburant, etc. Bien sûr, il y a un moment, on est en position verticale, après enfin, on est en horizontale, on passe en verticale. Est-ce que le corps, d'ailleurs, s'adapte facilement à ça? Est-ce que l'alimentation fait partie justement de ce qui va permettre de, on va dire, de compenser un peu les changements, j'allais dire de gravité, mais je ne sais pas trop comment le dire en fait, mais.
Bah, une fois de plus, il y a pas. Tu vois, quand tu traverses la Manche à la nage, tu fais un stage en mer avec Jacques Tuzet, parce que c'est quand même la référence de la nage en eau libre. Donc, tu pars à Palavas faire un stage là-bas. Et puis là, on pose tous les mêmes questions, et notamment celle que tu viens de poser. Mais c'est quoi la stratégie nutritionnelle? Et alors là, tu entends tout et son contraire. On est tous différents. Et dans des situations extrêmes, il n'y a plus vraiment de vérité. Oui, il peut y avoir des vérités sur des choses assez basiques ou normatives, mais quand tu es dans l'extrême, tu vois, on peut penser à Mike Horn quand il fait ses trucs de fou ou autre, il va te dire, bah, c'était bullshit, quoi. Moi, je prends un truc qui me fait du bien et à l'instant T, je réfléchis pas trop. Et ça passe, quoi. C'est vrai que dans les situations extrêmes, y a plus le rationnel, tu laisses un peu de côté. Et concrètement, est-ce qu'on doit prendre une boisson chaude ou froide quand on est dans l'eau, quand on traverse la Manche à la nage? Globalement, la logique physiologique vous dirait, il faut pas prendre de boisson chaude parce que ça crée un stress. Ta température corporelle, tu la montes d'un coup, hop, c'est pas bon. Sauf que moi, j'ai pris un thé à 12 heures d'effort, un thé chaud fait par les Anglais, bien sucré. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait du bien celui-là. Je peux te dire que peut-être que physiologiquement, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais il est passé. En tout cas, au niveau gastrique, c'est passé. Et je peux te dire qu'au niveau du mental, de l'envie, de capacité à se dépasser, ça m'a fait un bien absolument fou, quoi.
Ouais. Tiens, ça me fait penser en parlant de ces histoires-là, de repas et tout. Est-ce que tu avais, parce que j'avais parlé avec Marine Leleu, que j'avais eu, qui avait une stratégie, elle, de prendre du poids pour résister au froid quand on traverse la Manche. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable finalement? Elle avait dit que c'était extrêmement compliqué parce que quand on s'entraîne à faire un effort comme ça, on dépense des calories incroyables. Mais arriver ensuite à prendre quand même du poids quand on dépense autant de calories, ça semble tellement impossible. À penser comme ça, est-ce que c'est quelque chose aussi qui rentrait dans tes stratégies à toi?
Je pense que notre sport, oui, alors pour répondre à ta question, oui, ça faisait partie des stratégies, mais ça n'a pas fonctionné. S'il n'y avait que la nage et le vélo, tu peux prendre de la masse corporelle. Si tu cours 3 fois par semaine, dont une ou deux séances sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'entraînement, tu peux pas, c'est pas possible. La course à pied t'assèche. Donc, c'est pas possible finalement de se dire je vais faire un enduroman en prenant 10 kilos parce que de toute façon, les 140 bornes de course à pied pour le coup vont être très dures. Alors, si, il y en a qui le font, un Nino Fraguela qui est le vétéran de l'enduroman, qui avait près de 60 ans quand il l'a fait, très corpulent parce que lui, sa spécialité, c'est la nage en eau libre. Et pour le coup, il est physiologiquement bâti comme tous ces nageurs d'eau libre qui sont. Plus qui ressemble plus à des phoques qu'à des otaries, sans les offenser, parce que c'est comme ça qu'on fait enfin, des phoques, voire des morses d'ailleurs, mais parce que voilà, ils ont besoin de cette masse graisseuse pour pouvoir bah, résister aux températures qui sont de l'ordre sur la Manche de 13, 14, 15 degrés. Donc il faut se faire cette couche adipeuse au niveau de notre corps. Mais bon, nous, du coup, enfin, quand je dis nous, la plupart des enduromènes prennent le fond avec une combinaison. Il y en a qui le font sans. Hein. Alors là, je dis chapeau et respect, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une femme, Rachel, qui l'a fait. Il y a aussi une Australienne qui l'a fait, enfin sans combinaison. Et les femmes peut-être ont un petit peu plus la capacité à prendre de poids, contrairement à Marine qui elle a pas réussi à prendre quoi qu'elle avait pris, mais en musculature, pas trop en masse graisseuse. Et donc ouais, c'est assez compliqué. Hein. assez compliqué de prendre du
Oui,
poids
c'est vrai,
pour
parce
courir.
que je le dis, hein, j'avais vu dans la ligue, j'avais été étonné que certains, effectivement, l'ont fait, traversent la Manche sans combinaison. Rappelons que l'eau, toi, c'était 14 degrés dans cette zone-là. Puis rappelons quand même qu'il y a des méduses, que enfin, c'est infesté. Enfin, j'allais dire, c'est pas. Tu disais, tu parlais des odeurs, etc. C'est pas un petit lac tranquille de campagne avec de l'eau claire, quoi.
Ouais, c'est clair. Non, alors moi avec Lionel, on avait mis en place une stratégie un peu différente pour la nutrition. L'enjeu n'était pas de prendre du poids, de toute façon il n'y arrivait pas. Hein. Et pourtant, avec des calories, je peux te dire que lui, il en mangeait encore plus que moi. C'est un sacré énergivore. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais ils ont besoin de beaucoup de carburant. Mais par contre, l'enjeu pour pendant la préparation et pendant l'épreuve, c'était d'avoir surtout quelque chose d'extrêmement digeste. Donc, tu vois, ça répond peut-être un peu à la question que tu posais précédemment sur la qualité des aliments, quelque chose qui soit le plus digeste possible, voire même, là, pour le coup, nous, on avait une stratégie où c'était même pas des aliments solides. On était sur des repas déshydratés, qu'on réhydratait, donc une sorte de produit à shaker, hein, et qui était super digeste. Donc, des solutions sur haute digestibilité qui t'apportent l'énergie rapide et surtout en vitamines et minéraux. Donc, on va plus privilégier le côté micronutritionnel qui t'apporte aussi dont tu as besoin pour ta dépense énergétique plutôt que l'aspect macro avec des calories qui sont plutôt parfois des calories vides. Et c'est là qu'il faut se poser des questions quand on fait des épreuves tu vois, qui dépassent de 3-4 heures d'effort, quoi, parce qu'en fait, les sportifs ont souvent tendance à manger en se disant, je vais prendre du carburant, je vais prendre de l'énergie. Mais évidemment, ce n'est pas parce que tu te nourris avec quelque chose qui est calorique que ça va être du bon carburant. Donc voilà, avec Lionel, on avait une vraie stratégie là-dessus. Et c'est là, je pense aussi que tu vois, quand tu affines les choses, tu peux péter des seuils qu'on n'avait pas imaginés. Donc Lionel a fait moins de 50 heures. Est-ce qu'il est possible demain d'imaginer faire moins de 45 heures sur un enduroman? Alors, il faut un alignement des planètes, parce que comme tu l'as dit à l'instant, il y a des conditions qui vont être voilà, complètement différentes d'une semaine par rapport à l'autre. Et une connerie que j'avais faite moi, quand je m'étais inscrit, c'est que je m'étais inscrit fin juin. Pourquoi? Parce que je voulais passer des bonnes vacances derrière pour récupérer en famille. Sauf que fin juin, la température de l'eau, c'est pas du tout la même qu'au mois d'août. La Manche, elle va être plutôt autour de 14 degrés. Quant au mois d'août, elle va être plutôt autour de 16 degrés. Donc là aussi, en fonction des années, des saisons, des coefficients, il y a plein de choses à maîtriser, enfin, à connaître. Et comme moi, je les connais maintenant, je les partage, tu vois, et ça permet de faire moins d'erreurs, quoi.
Oui, puis c'est vrai, il faut le dire, ce temps passé dans l'eau, il y a les courants, il y a le fait de rentrer dans les zones où est-ce que tu vas arriver à te rapprocher du bord finalement, puis vous n'avez pas tous fait le même chemin. Il y en a j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que d'autres, qui ont fait un nombre de kilomètres qui est vraiment impressionnant. Et puis, autant on peut se dire, en course à pied, ces kilomètres en plus, ils ne représentent pas grand-chose. Mais quand on fait 10 km de plus en natation que le petit camarade qui est passé quelques temps avant, je me dis, en plus d'ailleurs, tu racontes un peu, c'est marrant cette histoire, tu racontes dans le TEDx, tu dis, bon, je vois les côtes, et puis en fait, il me reste quand même 3 heures encore à passer, quoi.
Ouais, non, c'est terrible, hein. C'est vraiment une épreuve terrible. Parce qu'en fait, des fois, on a la pression d'avancer en nageant, forcément, tellement, on met les jambes, on tourne les bras, on avance. Mais en fait, par rapport à la vision qu'on a des côtes, on recule. C'est terrible. Et ça, psychologiquement, moralement,
Et là, je
c'est
me
très
disais,
dur.
est-ce que tu avais un temps maximum, tu sais, des réserves pour un temps maximum que tu dis, je vais passer dans l'eau, je sais pas, tu dis, je vais passer 16 heures, 17 au maximum au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation, au niveau du. Est-ce qu'il y a un temps auquel après on peut plus trop aller, quoi? Et comment toi tu avais anticipé les choses là-dessus?
Est-ce qu'il y a un temps au-delà duquel on ne peut pas aller? Il y en a qui passent plus de 20 heures hein, dans la Manche hein, et qui restent bien. Après, c'est le pilote hein, qui décide d'arrêter. Hein. Le pilote, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la capacité de la personne à bien gérer la température, c'est tout. Le temps après, enfin le temps d'effort, ce n'est pas trop ce qu'il regarde. S'il y a des signes d'hypothermie, on arrête. Donc, il y en a déjà qui sont fait arrêter, dont Ludovic, hein, Ludovic Churgnon, que tu connais. Lui, après sa première tentative, il s'est fait arrêter alors qu'il n'était pas très loin. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives sur les côtes françaises, si tu n'es pas sur les bons coefficients de marée, c'est là que c'est le plus dur. Hein. Faut le savoir. Hein. Le départ des côtes anglaises n'est pas très dur. Les courants sont sympas, mais les courants en France peuvent être terribles. Et donc là, tu recules comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Ludo, il a arrêté la première fois, je crois, il était plus de 21 heures après plus de 21 heures d'effort. La deuxième fois, quand il l'a fait et qu'il a terminé, il a fait presque autant, quoi. Et donc voilà, tant qu'il n'y a pas de signe d'hypothermie, alors lesquels sont-ils? Le premier, c'est quand tu nages moins vite en termes de mouvement de bras, ça c'est un signe. Et le deuxième signe, c'est qu'il commence à te parler. Et si tu réponds à complètement à côté de la plaque, là, c'est que tu voilà, t'es plus lucide et ça, c'est l'hypothermie. Et là, direct, on te sort de l'eau, faut être rapide parce qu'en fait, si tu te sors trop vite, t'as une arythmie cardiaque et là, tu peux t'arrêter. Voilà, c'est la vie qui s'arrête.
Oui, et puis disons que c'est déjà arrivé en plus, hein.
Et
C'est-à-dire que
c'est
c'est
déjà
l'épreuve
arrivé.
qui a fait des au moins un, hein, je ne sais pas s'il y en a eu plus qu'un, mais.
Bah, il y a une année, en fait, je crois que c'est l'année juste après moi, il y en a eu deux qui sont passés, ouais.
Oui, numéro 26, hein, d'ailleurs. Toi, tu es numéro 25. Le numéro 26,
Oui.
malheureusement, lui, bah, sur la manche, et c'est une arythmie. J'avais fait
Exactement.
la recherche comme ça. Parce que vous avez beau avoir fait des. On ne se rend pas compte, d'ailleurs, du volume d'entraînement qu'il faut pour arriver à faire ce genre d'épreuve.
Pas plus qu'un Ironman, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien de faire plus, mais bon, ton corps aussi, il faut qu'il puisse encaisser tout ça. Donc, pour moi, j'avais plutôt une stratégie d'entraînement qui était de faire des blocs plutôt que de faire tout le temps beaucoup, quoi, en fait. Hein. Habituer l'organisme sur des 3 journées d'affilée à faire des grosses sorties longues, pouvoir mettre de l'intensité et après récupérer. Donc voilà, j'avais vraiment, et c'est comme ça que j'accompagne aujourd'hui les athlètes que je coach. Hein. À vraiment mettre une stratégie sur une année pour mettre des temps de récupération et des semaines qui peuvent aller effectivement quand même à 30 heures d'entraînement. Hein, donc, mais bon, on ne va pas mettre toutes les semaines des semaines à 30 heures. Ça va être peut-être allez, on va en mettre quelques-unes comme ça, mais la moyenne va osciller autour de 20 heures.
Est-ce qu'il y a des séances qui sont spécifiquement centrées sur justement cette partie nutrition, alimentation, dire on parlait un peu tout à l'heure de la crampe, mais c'est de dire, parce que quand on regarde un petit peu certains coureurs, alors je sais qu'ils le font en trail, ils doivent le faire dans d'autres disciplines, mais se dire on part à jeun par exemple pour simuler des conditions, ou
Bien
alors on fait une
sûr.
séance le matin à jeun, puis le soir on
Ouais.
retourne courir sans avoir mangé de glucides. Est-ce qu'il y a des stratégies comme ça? Est-ce qu'on peut faire un entraînement, on va dire une séance d'entraînement qui ne soit pas centrée sur le développement athlétique, on va dire, mais vraiment sur le développement de sa capacité à comprendre comment il faut qu'on se nourrisse et comment est-ce que et apprendre à notre corps aussi
Bien
à
sûr.
gérer ce qu'on lui donne.
Exactement, bah exactement. Hein. Tu fais des séances le matin en lipolyse, hein. C'est quoi? Bah, la veille, tu vas manger très léger, voire pas du tout. Tu peux ne pas manger la veille au soir. Tu passes une nuit l'estomac un peu vide. Alors, ce qui n'est pas très bon parce qu'il va te réclamer, donc tu dormiras pas très bien. Mais le matin au réveil, qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas, tu repars courir. Et là, tu habitues ton organisme à pomper directement dans les graisses. Et donc, voilà, l'exercice en lipolyse est bien connu aujourd'hui dans le monde du sport. Et d'ailleurs, quand on voit les athlètes aujourd'hui, notamment sur le Tour de France, les cyclistes, on peut se demander comment ils arrivent à monter des cols qu'on voit épais comme ils sont, avec une musculature aussi peu développée. Ben, en fait, il y a un rapport de masse-puissance qui est extrêmement intéressant à étudier en fonction des athlètes. Et on peut parler aussi de Cédric Fleurton, qui est un petit gabarit tout fin, tout sec, avec lequel je m'entraîne. Et quand je vois justement le peu, les séances qu'il fait, qui sont de très très haut niveau, et le peu de consommation qu'il a en termes alimentaires, on se dit il y a quelque chose à explorer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les Froome et compagnie, bah, sont des gars qui ont des vraies stratégies à ce niveau-là, voire qui font des régimes cétogènes ou ce genre de choses. Voilà, donc là, après, on va pas rentrer trop dans la technique, mais oui, pour répondre à ta question, on va faire des séances très spécifiques pour habituer l'organisme à être en insuffisance et pour qu'il puisse s'habituer à ça. Et quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans l'effort, bah, ça passe bien, quoi. Ça passe bien, l'organisme ne va pas te réclamer parce qu'il sait que, hop, psychologiquement, tu vois, il passe un cap, il passe un seuil et finalement, pff, il est dans les réserves et ça passe bien, quoi.
Oui. Alors, tiens, une question aussi qu'on se pose. Alors moi, mon épreuve la plus longue pour moi, ça a été un marathon. Et avant mon premier marathon, mon seul marathon, parce que les autres ont été annulés par diverses raisons, qui s'appelle virus. Tu sais, il y a les stratégies. On cherche toujours les stratégies. Est-ce qu'il faut faire un truc à la Scandinave, un truc à la, je sais pas comment, etc. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Et je me demande si d'ailleurs sur des épreuves type Ironman et Enduroman et tout ce qu'on veut. Est-ce que les stratégies, finalement, ça, elles servent à quelque chose, ces stratégies-là, vraiment, d'ailleurs?
C'est intéressant ta question parce qu'effectivement, quand même ces 10 dernières années, on a dans tous les domaines médicaux, scientifiques et de l'analyse aussi de tout ce qui va être cérébral, on dit complètement l'inverse aujourd'hui de ce qu'on disait il y a 10 ans, quoi. Alors moi qui ai 46 ans, quand je faisais mon premier marathon de Paris en 1995, je lisais des bouquins, il y avait Navratilova qui avait une grande tenniswoman qui avait écrit des choses là-dessus, elle mangeait que des pâtes. Et ben moi voilà, je mangeais que des pâtes et tout le temps, quoi. J'étais casse-pieds, même chez les amis, non, non, vous me faites un plat de pâtes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je dis à tous mes athlètes, non, mangez pas de pâtes, c'est pas bon du tout, quoi. Déjà, ça file des gaz, au sens propre et figuré. Mais en plus de ça, voilà, non, pour l'estomac, voilà, tout ce qui est gluten et compagnie, il y a des choses, on sait aujourd'hui que c'est pas bon au niveau digestif, quoi. Donc, je te parle pas qu'il faut faire des régimes sans gluten, hein, mais en tout cas, voilà, il y a mieux que de manger des pâtes avant une course, par exemple. Et comme tu disais, voilà, les régimes dissociés scandinaves, on n'en fait quasiment plus parce qu'en fait, finalement, l'organisme, on va le stresser de temps en temps. Comme une plante, hein, on va la mettre à l'extérieur pour qu'elle ait une montée de sève et qu'elle refasse une belle floraison. Nous, notre organisme, on peut faire ça, mais il ne faut pas trop le faire, quoi. Il y en a qui le font beaucoup, ce genre de choses, et à un moment donné, c'est contre-productif aussi. Donc, il faut mettre un peu de bon sens, il faut savoir s'écouter. Moi, je pense que la première des choses qu'on m'a appris quand j'ai préparé l'Enduroman, que ce soit au niveau nutritionniste, enfin nutritionnel avec Anthony Berthoud, que ce soit dans la préparation physique avec Patrick Bringer, ils m'ont appris une chose essentielle, c'est apprends à t'écouter. Donc, on va plus créer des circonstances et des événements qui vont t'amener toi à te redécouvrir, plutôt que de regarder ce qui se passe sur ta montre, c'est quoi tes pulsations, où aller à chercher tes watts, à développer des watts, etc. On va faire des séances dures. Hein. Ça ne veut pas dire on va être dans la caresse, hein, qu'on va se faire des choses dans la simplicité. Mais par contre, c'est là que tu vas t'explorer, que tu vas t'écouter. Oublie l'indicateur. Électrostimulation, allez, mets ça de côté. Pulsation cardiaque, laisse ça de côté. Alors, je ne dis pas que le matériel n'est pas bon, mais à un moment donné, il te sert à un certain moment donné. Mais après, si tu vas aller plus loin, il faut savoir s'écouter aussi, quoi.
Oui, alors ça me fait penser à mon coach qui m'a fait des séances d'entraînement, qui disait pas de cardio, mais finalement, cette vitesse d'entraînement, ça doit être quand tu sais que tu peux plus parler. Cette séance-là, c'est quand tu sais que tu peux encore accélérer, mais ça commence un petit peu à picoter. Celle-là, tu sais que tu peux plus du tout accélérer. Donc, lui m'a fait avec des tableaux comme ça, en fait. Et finalement, tu dis que dans ces gestions des efforts, finalement, il faudrait revenir à cette connaissance-là, en tout cas.
C'est un peu des deux, voilà. Moi, je dis pas qu'il faut pas. C'est un peu comme le smartphone. Aujourd'hui, on peut pas faire sans. Et si on veut être un homme augmenté, c'est bien d'avoir son smartphone dans la main. Moi, je suis assez partisan de ça. Ça m'aide à trouver très vite des informations, ça m'aide à développer des nouvelles facultés, etc. Le problème du smartphone, c'est si tu l'as tout le temps, si tu regardes que ça et que tu regardes plus ce qu'il y a autour de toi. Donc, ça doit être un outil de productivité, un outil qui t'apporte des informations, mais souvent, malheureusement, les gens s'enferment dans cet outil et sont complètement bridés parce qu'en fait, ils savent plus regarder, ils savent plus s'écouter. Donc voilà, je pense que c'est l'alchimie des deux qui fait qu'on est un homme ou un sportif augmenté et pas un sportif esclave de ce matériel.
D'ailleurs, tiens, c'est un truc intéressant, ça me fait penser sur la nutrition et sur l'hydratation notamment, parce que bon, on a tous des montres qui ont plein de fonctions, etc. Et sur les montres, on a des alertes, on peut mettre des alertes nutrition. C'est le moment de boire, c'est le moment de manger. Alors, est-ce que finalement c'est une bonne idée de les régler, ou est-ce que finalement il faudrait faire plus confiance à, je sais pas, à ces sensations, ou est-ce que nos sensations peuvent nous tromper? Parce que c'est pas facile. Alors, surtout quand on débute dans des nouvelles distances, quand on connaît pas trop, comment on fait ça, en fait? Comment on peut gérer cette histoire-là?
Moi, je suis très partisan de ce genre de choses, que ce soit sur les Samsung Watch ou les Watch, hein, ou les Apple Watch, etc. En fait, c'est vachement bien foutu. Hein. Quand tu regardes sur leurs applications santé, tu vas trouver les piliers de la santé. Et un, la respiration, donc réapprendre à respirer, donc faire de la cohérence cardiaque. Deux, le sommeil, la récupération, faire des siestes, des power naps, etc. Donc, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Et quand je les fais, est-ce que j'en fais suffisamment pour redresser mon niveau de tension, de stress, etc. L'alimentation, pareil. Et le quatrième, l'activité physique, calcul du nombre de pas. Ouais, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui. Bon, ok, une fois qu'on a fait ça une fois, deux fois, trois fois, on va se calmer parce que faire 10 000 pas par jour, nos ancêtres, ils en faisaient 50 000. Donc, notre corps est capable de faire par jour 50 000 pas sans problème. Donc, voilà. Donc, tu vois les limites un peu de l'outil. Moi, je suis fondamentalement aujourd'hui pour ces outils-là, mais qui nous permet de changer des habitudes qui n'étaient pas bonnes, prendre conscience qu'on respirait pas bien. Putain, je me rendais même pas compte que je respirais pas bien. Je me rendais même pas compte que je dormais tant d'heures par nuit et que c'était pas assez. Je me rendais même pas compte que je m'hydratais pas assez. Et évidemment, il va falloir corriger tout ça. Et l'outil va nous permettre de mesurer. Et ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas. Donc la mesure est importante. Maintenant, il faut savoir dépasser ça aussi pour pouvoir après s'écouter une fois de plus et être dans l'amélioration continue et pas seulement se satisfaire de ce que nous a proposé ou imposé ou suggéré notre outil, de mesure, le smartphone ou la montre, mais de pouvoir après s'écouter encore un peu plus pour permettre d'écouter un peu plus les autres aussi. Parce que c'est ça qui est génial pour moi, hein, c'est les outils qu'on a aujourd'hui nous permet de mieux nous connaître. Mais bon, mieux se connaître, c'est bien. Pour dépasser ses limites, pour faire des belles performances dans le sport, être plus performant au travail ou que sais-je. Mais moi, la finalité de tout ça, c'est surtout d'être mieux pour soi, pour après être encore mieux avec les autres.
J'avais alors deux, trois petites questions comme ça, et après, et puis on finira sur une série de questions un peu différentes. Je me dis, et c'est une question, parce que j'ai déjà abordé avec d'autres coureurs, un coureur comme ça qui part sur, alors on va dire, où il y aurait des ravitaux, tu vois, des trails, par exemple, des coureurs qui feraient du trail des longues distances, où on va se rapprocher. Alors, on n'est pas dans des efforts de 50 heures hein, la plupart du temps, quoique dans certains très très longues distances. Finalement, il y a toujours la question de savoir si on doit prendre les ravitaux, si on doit partir avec ses propres, alors, propres réserves, ça dépend des courses, etc. Mais comment on fait comment on pourrait gérer ça, finalement? Parce que des fois, on ne sait pas forcément ce qu'il y a sur des ravitaux, d'ailleurs, sur des courses, etc. Il y en a certains, ils vont me dire, oui, mais moi, je ne sais pas, s'ils vont mettre un bout de fromage sur le trail, je ne sais pas quoi, et puis un tuque, parce qu'il y a toujours des tuques maintenant sur les trails. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de prendre le tuque? J'en sais rien, moi, je demande aux
J'ai fait un
spécialistes, parce que.
UTMB comme ça m'a plutôt bien réussi,
Ouais, c'est vrai, le tuque, ça marche bien?
ouais. Bah moi ça m'a réussi. À un moment donné, j'avais stratégie tuque dans les années 2007-2008 et ça me réussissait bien. Mais ça a eu ses limites aussi, hein.
Donc finalement, est-ce que ces histoires de... Parce que ça peut stresser, c'est aussi une histoire de stress finalement. Si j'arrive à un ravito, j'ai un peu faim, etc. Il y a des trucs que je connais pas trop. Comment je fais? Comment je gère ça, etc. C'est quoi l'idée en fait?
Ouais, tout dépend de l'objectif qu'on a une fois de plus. Si on est sur une épreuve où on veut apprendre, faire des découvertes, etc., on peut très bien faire les choses au feeling sans trop préparer et finalement écouter, voir ce qui se passe en fonction du kilométrage, en fonction de ce qu'on va prendre, évidemment, hein, que ce soit d'un point de vue liquide ou d'un point de vue solide. Donc on fait ces expériences. Par contre, si c'est une épreuve sur laquelle on se fait, voilà, j'ai un objectif et je veux aller chercher un chrono, je veux aller chercher une place ou que sais-je, alors sans être dans l'élite, hein, je ne parle pas seulement pour ceux qui sont dans l'élite, mais quand même si on veut tirer un enseignement des bonnes pratiques de Cédric Fleurton ou de Nicolas Martin ou bah, tous ces trailers qui sont quand même dans le top niveau, bah, il n'y a rien qui est mis au hasard, hein, absolument rien, et notamment en matière de nutrition. Donc ils savent exactement en 1 heure combien ils doivent prendre d'équivalent glucides en grammes pour pas dépasser un certain seuil et en même temps pas être en dessous. À quel moment aussi ils vont prendre? On prend en fonction de la physiologie du parcours. Parce que si tu prends bah, quelque chose en bas d'une pente ou en haut, bah, forcément tu digéreras peut-être un peu mieux ou tu mangeras peut-être un peu mieux quand ça monte ou quand ça descend. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Je me rappelle d'une anecdote de Nicolas Martin. Il me disait, moi, je vais charger un peu plus en glucides. En haut, pourquoi? Bah parce que juste après, il y a la descente et c'est là qu'on va casser la fibre, c'est là que les muscles vont être très sollicités dans la descente. Donc là, il y a un besoin en apport glycémique qui va être plus important pour justement toutes ces ruptures et toutes ces charges qui vont se faire au niveau musculaire. Donc vous savez, les quadrilles, là, quand ça tape et qu'au bout d'une heure de descente, on n'en peut plus, c'est dur comme du bois. Bah voilà, ça aussi, si c'est dur comme une bois, c'est comme du bois, c'est parce que des fois, on n'a peut-être pas été vigilant sur ce qu'on avait prendre au niveau nutritionnel juste avant cette descente, voire même pendant. Pour que ces fibres cassées, bah, se régénèrent aussi avec un apport en vitamines adaptées.
D'accord. Oui, moi c'est vrai que sur les trails, moi j'ai la stratégie de manger plutôt en montée parce que je me disais, bon, tant qu'à marcher, autant en profiter pour manger. Mais finalement, si en plus je me dis que c'est pas si mal pour ça, pour préparer la descente, on va dire derrière, je me dis que finalement, c'était pas un mauvais calcul, mon histoire. Ça me rassure, hein, mais ça me rassure vachement, en fait, cette histoire-là, parce que moi, je suis un coureur débutant, moi, j'y connais pas grand-chose, donc je suis très néophyte dans cette histoire-là. Et donc, je vais chercher à glaner, moi, des petits conseils, des choses comme ça. Je me dis, finalement, voilà, c'est dans ma liste de questions. On va terminer l'épisode sur ma liste de petites questions. Je me dis, est-ce que tu as tu vois, par exemple, un entraînement? Alors, d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il y a des débats sur est-ce qu'il faut s'entraîner à jeun ou pas. Alors, on a tout à l'heure un peu parlé de ces histoires-là, etc. Mais il y en a plein qui se posent la question. Il y a un débat sur est-ce qu'on peut s'entraîner à jeun? Est-ce que c'est bien, pas bien, etc.
Ah
Tu
oui, tout
penses que.
dépend de l'effort que tu vas faire. Moi, j'adore, c'est mes entraînements préférés, ça. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'ai horreur de ces entraînements. Moi, personnellement, c'est ceux que je préfère. Je me lève le matin à jeun. Il n'y a pas de bruit dehors, c'est calme. Voilà, il peut faire nuit d'ailleurs. Et là, je pars avec un verre d'eau dans le ventre et je peux courir 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Alors, pas plus, parce qu'après, voilà, faut être vigilant quand même. Faut pas aller trop loin non plus. Mais voilà, là, t'habitues en 1 heure et demie de séance où tu te fais un rythme en endurance, tu vois, donc le seuil dans lequel tu es bien, tu peux mettre un petit peu d'allure. Pas faire de tu vas pas me faire des 30 secondes, 30 secondes, ce genre de choses. Quoique, quand des fois tu n'as pas le choix, il faut bien le faire à un moment de la journée. Moi, je sais que Patrick Bringer, il me disait, Cyril, bah, tiens, moi, je suis désolé, hein, j'ai un travail, j'ai une famille. Les seuls moments où je peux m'entraîner, c'est le matin, et c'est le matin de bonne heure, et ce sera à jeun. parce que je me lève super tôt, 4h30, tu vois, je vais m'entraîner. Donc bon, bah voilà, et ça marche, hein, ça peut empêcher à Patrick Bringer d'être un meilleur Français en triathlon et même en trail, puisqu'il a été champion de France. Voilà, donc, et tu vas dire, mais merde, il s'entraîne tout le temps le matin, c'est possible. Bah oui, la preuve, c'est possible. Voilà, maintenant, le week-end, il va peut-être faire autrement aussi. C'est pas tout le temps, quoi. Faut pas mettre toujours ton organisme une fois de plus sous tension, quoi.
Oui, alors pour l'anecdote, j'ai fait une sortie un jour avec Patrick Bringer, parce que comme je suis en Auvergne, ben voilà, il était parrain d'une épreuve. Quelqu'un lui a posé la question le matin en disant, mais c'était le raccourci d'un trail dont il était parrain. Il dit, bah, finalement, sur ce trail, comment on mange le matin avant de prendre le trail? Il a dit, oh, moi, je le ferai avec vous, je prendrai une pomme et un café.
Ouais, ouais, léger, voilà.
Ouais. C'est son anecdote. Alors, après le café, savoir si on le digère ou pas, hein, ça, c'est, ouais, chacun ses trucs. Exactement. C'est vrai aussi, hein, ça fait partie des débats. J'en avais parlé un jour avec Johan Stuck. On disait, suivant même comment le café est fait, on ne va pas le digérer pareil, etc. Bien c'est sûr. Important de se connaître là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as une recette sportive, tu vois, un peu préférée, un peu chouchou, je ne sais pas, sur une sortie un peu longue, est-ce que tu as un truc que tu aimes bien amener en particulier, que tu pourrais te faire, tu vois, un petit. Un petit truc magique, enfin.
Ouais, alors non, d'un point de vue sensibilité, plaisir, etc. C'est très variable. J'ai jamais la même. Ça va peut-être des fois du salé, des fois ça va être un truc sucré. Enfin voilà, je me rappelle mes entraînements quand je démarrais, comme toi, tu vois, je faisais mes premiers marathons. Oh, j'avais aucune envie au bout de 2 heures de séance, j'étais au bout de ma vie. Hein. À l'époque, j'avais dit, je sais pas, 19 ans, 20 ans, je pensais à un poulet, quoi, un poulet rôti. C'est le truc que t'en as marre du sucré, tu veux qu'un truc, ça, voilà, un truc salé, quoi. Et aujourd'hui, comme j'ai intégré ça dans mes habitudes alimentaires de course, oui, alors pour répondre à ta question, je vais avoir des aliments, tu vois, que je prépare moi-même. Hein. Alors, soit en solide, je prends mes noix, noisettes, etc. Je vais mettre dedans 1, 2, 3 fruits, figues, par exemple, que j'aime bien. Je mets tout ça je concasse tout ça, enfin, je mets ça au broyeur, quoi. Et puis, pour mettre un peu de lien, je mets un petit peu de miel ou noix de coco, enfin, de lait de coco, genre de choses. Voilà. Et puis après, je fais comme ça mes petites boules, tu vois, les power boules, quoi, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Je fais ce genre de choses. Ou sinon, quand je suis feignant, je prends carrément. J'ai des produits tout faits, quoi, et je check, et puis voilà, j'ai ça dans ma gourde, et c'est bien, quoi, c'est du semi-solide en fait. Et là, pour le coup, j'ai plein de variétés de parfums, et là, je me casse pas la tête. Ça, c'est une marque qui me fait ça, et je suis bien avec ça, quoi.
Tiens, on va parler d'un truc qui fait débat aussi. Hein, après, est-ce que pour ou contre le cheat meal, tu sais, le repas, alors t'as dit, hein, y en a qui des bons vivants quand même, hein, qui aiment bien se faire. On parlait tout à l'heure un peu de la bière, etc. C'est important de se faire une bonne bouffe, même quand on est dans une période de grosse préparation, ou il faut vraiment l'éviter?
À quel moment?
Bah, si on prépare, alors par exemple, pendant l'enduroman, est-ce qu'il y a des moments pendant la
préparation? Mais tu veux dire la veille de course, par exemple, ou
Non, peut-être pas la veille quand même, mais à moins que tu me dises que la veille, tu allais manger au restaurant à Londres, mais.
Non, mais par contre, ça, c'est une anecdote, tu vois, les veilles d'Embrunman, tu vois, moi, les veilles d'Embrunman, tous les triathlètes, les Ironman, tout ce qu'on fait, on va se faire une pasta party, une pizza et tout, c'est une vaste connerie, il faut pas faire ça, quoi. La veille de course, le soir, repas super léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mange trop, et puis après, bah, la nuit est pas bonne, quoi. Donc voilà, non, faut manger vraiment, faut pas manger trop, quoi, la veille, et ni le matin d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en course, tu vas être vite en saturation. Donc, vaut mieux manger, toi, régulier. Moi, c'est un des enseignements majeurs que j'ai pris pendant l'enduroman, et pendant, parce que c'était pour moi l'apothéose, quoi, cette épreuve. Et tout ce que j'ai appris pendant cette préparation sur cette épreuve, m'a servi derrière pour d'autres épreuves, évidemment. Mais ce que j'ai appris, c'est de faire des choses avec, tu vois, de fractionner, voilà. Avant, j'avais tendance à manger peut-être pas beaucoup, mais d'un coup. Et du coup, après, bah, qu'est-ce qui se passe? Montée de glycémie, toute l'énergie dans la digestion, et bah forcément, parce que l'estomac requiert beaucoup d'énergie. Hein. Donc, si l'estomac requiert beaucoup d'énergie, bah, c'est au détriment des fibres musculaires. Et là, forcément, bah, t'as un coup de pas bien, quoi. Donc après, bah, ton énergie sur une course, elle oscille. Donc, l'idée, c'est quand même qu'elle soit assez régulière. Maintenant, donc voilà, pour répondre un peu plus à ta question, moi, je m'interdis rien. Par contre, hein, en termes de nutrition, je mange de tout et je bois de tout. Je suis assez curieux, donc voilà, j'aime bien tester des choses, mais par contre, voilà, quand je fais le job, hein, période d'affûtage, 2-3 semaines avant la course, je bois plus d'alcool, non, 3 semaines avant, je fais le job, sur des grosses épreuves, hein. Voilà.
Et après la course?
Ah, donc, et pour celle d'après, ça dépend des fois. Alors, par contre, un truc intéressant à savoir, c'est que j'avais complètement négligé aussi, que j'ai redécouvert depuis 2-3 ans, c'est la fenêtre métabolique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre un petit peu qu'on entend de plus en plus, mais moi, la fenêtre métabolique, il y a 5 ans, j'en ai jamais parlé de ça. Hein. Donc, la fenêtre métabolique, après une grosse sollicitation, que ce soit l'entraînement Bon, a fortiori en course, mais vraiment pensez-y à l'entraînement, une sollicitation d'au moins 1 heure avec un entraînement difficile. Vaut mieux manger après, enfin un petit peu avant, tu vois, histoire de ne pas être trop à jeun non plus, si tu as une grosse sollicitation, et tout de suite dans le quart d'heure qui vient, prendre un truc léger, tu vois, mais quelque chose qui est très riche en vitamines et minéraux pour reconstituer tout de suite au niveau cellulaire et musculaire, articulaire, à tout point de vue. Donc ça, cette fenêtre métabolique est importante, elle est extrêmement négligée par beaucoup de sportifs. Et je ne parle pas des sportifs de haut niveau, hein, quoique aussi, néglige pas mal de choses d'ailleurs, ce serait étonnant, vous seriez étonné de savoir que les sportifs de haut niveau ne font pas toujours le tiers de ce qu'on peut imaginer. Et voilà. Mais même pour le but, c'est que nous, on n'est pas sportif de haut niveau, on a un boulot après, on a une activité, on a une vie de famille, donc il faut s'en remettre le plus vite possible pour pouvoir avoir l'énergie pour ce qu'on a à faire derrière aussi, quoi.
Ouais, mais tu vois, sur la fenêtre métabolique, moi j'avais entendu des gens qui disaient, ouais, mais après l'entraînement, tu peux tout manger, vas-y, mange du
Ah
chocolat, tu
non,
peux
ça
manger
c'est
des
pas vrai.
frites,
Non, non.
etc.
Non, ouais, oui, alors si, tu as les trucs mythiques de certains sportifs qui vont faire parce que justement, ils sont sur des régimes cétogènes, ils mangent que du gras, etc. Donc oui, voilà, mais non, franchement, moi, mon avis, en tout cas, et pour l'avoir partagé avec quand même des grands experts en nutrition qui sont au goût du jour aujourd'hui, non, la fenêtre métabolique, tu fais le job et voilà, tu prends quelque chose de léger, mais qui t'apporte juste ce dont tu as besoin de ton corps. Tu n'as pas besoin d'aller à la selle derrière, tout va être consommé, tout ce que tu vas manger va être consommé par tes muscles, quoi.
Une question sur l'hydratation, parce que je pense que ça intéressera beaucoup de gens aussi. La place de l'hydratation dans la récupération, elle est extrêmement importante, parce qu'on dit il y a la transpiration, il y a les sels minéraux, etc. Comment tu fais ça en fait? Tu as des eaux un peu particulières? Est-ce que tu rajoutes des choses dedans? Comment tu le gères un peu cet aspect-là?
Ouais, alors moi j'avais la technique, ça dépend, j'ai la technique que je prends mon eau et je mets dedans un petit peu de miel, une pincée de sel, enfin voilà, le truc un peu classique que beaucoup de sportifs font et que j'exclus pas, qui est très bien, mais comme je suis assez feignant et que j'ai pas tout sous la main, j'ai des produits tout faits, quoi, voilà. Donc j'ai ma petite poudre de perlimpinpin que je vais mettre dans mon eau, qui va me recharger en sels minéraux, qui va m'apporter aussi l'effet drainant, parce que pareil, hein, on parle de recharger au niveau énergétique, au niveau musculaire, etc., mais aussi tout ce qui va être au niveau digestif, donc la flore intestinale, comment je reconstitue la flore intestinale quand j'ai parfois tu parlais de crampes tout à l'heure, souvent parce que voilà, on met à mal notre microbiote. Donc par rapport à ça, voilà, on a des boissons, voilà, aujourd'hui qui sont, on va parler de thé vert, où il y a des choses qui existent sur le marché aujourd'hui qui sont très très bien faites et qui permettent de drainer et de très vite récupérer, donc sur l'aspect musculaire, mais aussi au niveau digestif et au niveau gastrique.
Voilà, et ben je pense qu'on a fait un sacré tour de la question quand même, parce que bon, c'est une question qui est large, hein. C'est vrai qu'en plus, il y a des recherches en permanence, hein, il
Bien
y a des
sûr.
choses qui évoluent en permanence,
Tout
chacun a
à
son
fait.
expérimentation, chacun
Ouais.
doit faire ses essais, etc.
Ouais.
Tu dirais quoi justement là-dedans pour donner un dernier conseil? C'est il faut faire des entraînements où on va tester tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie de voir et comment ça peut fonctionner, et puis se laisser aussi une fenêtre un peu de
Ouais, moi je pense qu'il faut
d'agilité.
être curieux. Ouais. Faut être curieux, faut tester pas mal de choses, faut écouter les autres, hein, les pratiques des uns et des autres. Une fois que tu as écouté un peu tout ça, en fait, c'est des pièces d'un puzzle. Et en fait, les pièces, tout le monde détient des vérités. Mais la vérité qui va pour toi, c'est le puzzle que tu vas construire toi. Toc, tu vois, clac, clac, et puis ça commence à se dessiner, tu vois, un truc qui marche bien. Et puis une fois que tu as fait ton puzzle, tu dis, ça y est, c'est bon. Non, sauf que tu as fait un puzzle à 50 pièces. Mais finalement, tu peux faire un puzzle à 100, puis à 500, puis à 1000, puis c'est un infini, tu vois. Bon, moi, j'espère conserver cette humilité et l'avoir toujours en disant j'ai appris énormément de choses, mais j'en ai encore beaucoup à découvrir parce que déjà la science, voilà, c'est un puits sans fin. Il y a encore énormément de choses qu'à découvrir sur l'ADN, l'ARN. Voilà, donc là, en matière de génétique, il y a encore beaucoup de choses à découvrir qu'on ne sait pas. Et même au niveau cellulaire, au niveau cérébral, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Donc moi, par rapport à ça, j'espère garder mon humilité pour me dire que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, encore aussi beaucoup à partager malgré tout. Et il y a un truc quand même que je voulais partager, tout à l'heure tu me disais, c'était sur le avant. Moi, on parlait d'affûtage, tu vois, sur les 2, 3 semaines d'avant en matière de nutrition, on fait le job. Mais attention, parce que peut-être le petit conseil, tu vois, le petit tip par rapport à ça, on n'est pas, on a souvent, c'est souvent là qu'on chope une grippe. On va choper un truc, tu vois, un coup de froid, un coup de pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisme, il a tellement été sollicité avant pendant ta préparation. Tu vois, tu as fait ta préparation marathon, tu as fait tes 12 semaines, et puis la dernière semaine, on dit se relâcher. Et mot relâcher veut tout dire, c'est-à-dire que tu te relâches à un moment donné, et hop, qu'est-ce qui se passe? Les virus, puisque tu en parlais tout à l'heure, en général, c'est là qu'ils t'agressent, c'est là qu'ils vont te toucher. Donc, il faut être super sensible à cette période-là. Et ça, on la néglige aussi. Donc là, renforcer le système immunitaire sur cette période-là avec voilà, tout ce qui va être le microbiote, prendre soin de son microbiote, les antioxydants. Donc, faut prendre soin de son métabolisme parce que voilà, ce serait quand même dommage après tout ce qu'on a fait d'arriver sur la diagonale des fous avec ben non, j'ai chopé une fièvre, j'ai chopé une grippe, la grippe voilà, fatale qui arrive 2-3 jours avant une épreuve, quoi. Et c'est ça, souvent on entend dire, hein, chez les sportifs de haut niveau. Ils ont chopé un coup de grippe parce qu'en plus, ils étaient en stress. Toi, tu as la montée du stress, tu as l'épreuve qui arrive, tu dors moins bien et tout. Donc, pour se détendre, je vais prendre des oméga 3, ça va me relaxer, ça va me détendre, des antioxydants. Et tu vois, il y a des stratégies là aussi qu'on ne connaît pas forcément bien. Et moi, j'adore à partager ça avec les gens que je coach parce qu'en fait, ils me disent putain, mais si j'avais su ça avant, je ne me serais pas loupé autant de fois sur des épreuves où j'aurais été meilleur, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'est des choses que j'adore partager parce que finalement, il y en a, le puzzle, il est infinitésimal, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Mais voilà, si tu as des personnes qui t'accompagnent par rapport à tes projets, alors moi au début, pour finir là-dessus, quand j'avais 30 balais, j'étais sacrément con. Jusqu'à 35 ans, j'étais vraiment très, très con même. Non, mais c'est des conneries ce que vous dites, faire des assouplissements, faire du gainage, n'importe quoi. Et puis, boire ci, boire ça, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment très, très con avant. Et quand je me suis mis à me dire, bah, tiens, maintenant, si tu veux dépasser un peu tes limites, il va falloir peut-être un peu écouter. Et là, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai perdu tout mon temps à... J'aurais pu écouter, j'aurais pu être beaucoup plus réceptif. Donc, en fait, on a des habitudes, on a un petit peu avec des œillères. Et voilà, plus on retire ses œillères et plus on est curieux. Et plus on ira loin.
Voilà, et ben c'est exactement aussi pour ça que ce podcast est né. C'est justement pour aller chercher des conseils, pour ne pas avoir d'œillères, hein, vraiment d'aller chercher des conseils. Et moi, j'apprends tellement de choses. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils parce qu'il y a beaucoup de choses à piocher. Ça va donner des pistes à tous ceux qui écoutent ce podcast de se dire, tiens, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ça, je vais regarder un petit peu toutes les choses. Et j'ai envie de te dire maintenant, qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu prépares quelque chose? Est-ce qu'on est capable de préparer quelque chose dans cette période-là, d'ailleurs? Est-ce que ouais, tu as des champions qui préparent quelque chose c'est quoi le programme de tes prochains mois, on va dire, ou si tu as une vision dessus?
Bah, je ne sais pas si c'est l'âge, mais tous les sportifs de ma génération, ils n'ont pas trop de problèmes avec ce qui se passe en ce moment. Alors, est-ce que c'est l'âge, la maturité, la prise de recul, tu vois? Ou peut-être qu'on a déjà vécu aussi un peu nos épreuves, tu vois? On a déjà atteint ce qu'on avait imaginé ou rêvé. Donc, après, tu relativises. Donc, c'est peut-être plus facile quand on a vécu de relativiser. Donc, mais moi, cette période-là, je la vis plutôt bien, quoi. Je trouve toujours autant d'énergie et d'envie à aller m'entraîner. Parce que ce qui m'appelle, c'est la nature, c'est aller voir d'autres personnes quand on peut faire des choses en groupe, en petit groupe en tout cas. Mais ouais, moi, c'est ça qui m'anime et qui me donne un plaisir fou, quoi. Alors après, c'est vrai que je comprends aussi que quand il n'y a pas d'objectif, c'est difficile de se motiver. C'est difficile de sortir le matin de bonne heure pour aller s'entraîner alors qu'il n'y a pas d'objectif. Donc voilà, il faut trouver d'autres sources de motivation. Donc moi, malgré tout, je m'en suis trouvé une, c'est de créer ma propre épreuve. Comme Arnaud, tu parlais d'Arnaud de Lespierre tout à l'heure, qui aime bien créer ses propres épreuves. Donc moi, j'aime beaucoup Arnaud pour ce qu'il fait. C'est toujours original. Ça sort un peu des sentiers battus. Je me suis pas mal inspiré de lui. On a fait l'enduroman, tu vois, un peu par procuration chacun de notre côté, mais on s'est de temps en temps au téléphone et je l'apprécie vraiment beaucoup et je pense qu'il m'apprécie aussi parce qu'il a une approche aussi qui est pas mal sur le mental. Donc lui, il a créé son épreuve. Moi, je suis en train de créer la mienne entre guillemets, mais pour moi, hein, c'est très égoïste. Je me fais mon summum en fait. Mon summum serait une épreuve, voilà, qui a une sorte de triathlon avec une arrivée en haut du Mont Blanc. Parce que le Mont Blanc, je l'ai fait quand j'avais 20 ans, en 2000, en 1999, c'était pas hier. Et j'en garde un super souvenir, même si ça fait un petit peu, voilà, faire le Mont Blanc, faire l'Everest et tout. Bon, voilà, ça fait plus rêver grand monde. Moi, ça me fait pas rêver, mais par contre, c'était beau souvenir d'avoir fait ce Mont Blanc et j'aimerais bien y retourner avec une épreuve, tu vois, qui soit. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un enduroman, mais plus un en France et avec des paysages quand même plus sympas, quoi. Parce que la Manche à la nage, c'est un mythe. Mais c'est franchement pas terrible de courir le long des courir sur les routes anglaises, c'est vraiment pas génial. Puis le vélo sur la D1001, voilà, il y a plus sympa, quoi. Donc voilà, tous le disent à la fin d'un enduroman, fallait le faire, mais c'était pas ce qu'il y a de plus beau à faire. Voilà, donc moi je me suis dit je vais m'en faire un plus sympa, un peu dans l'idée, et ça s'appelle summum.
D'accord. Et c'est pour quand tu as prévu ça ou...
Alors, ça fait deux fois que je voulais le faire, mais que les conditions n'étaient pas bonnes. La dernière fois, c'était au mois de septembre de l'année dernière, plein confinement, enfin quoi, entre deux fenêtres, tu vois. Donc, ça aurait pu se faire, mais c'est la neige qui est arrivée très, très tôt dans les Alpes cette année. Donc, on n'a pas pu le faire. Donc là, cette année, on se l'est remis au 21 juin, tu vois, solstice d'été, ça peut être sympa.
Donc voilà. Et ben on suivra ça. Et ben, d'ailleurs, tiens, tu vas nous dire tout de suite, on peut te suivre, on peut suivre ces aventures.
Oh, vous tapez Cyril Blanchard et puis vous trouverez bien, que ce soit sur Instagram, Facebook, sur YouTube. J'ai une petite chaîne YouTube, tu vois, où je fais comme toi, un peu de webinaire qui parle pas forcément de sport, c'est plutôt du développement personnel. Et voilà, tout ce que je peux partager à mon niveau ou avec des personnes qui m'ont inspiré, parce que l'idée, c'est ça. C'est, il y a des gens qui m'ont énormément inspiré depuis, allez, on va dire 5-6 ans, depuis que je suis moins con, quoi, en gros, et que je me suis ouvert aux autres, quoi, aux réseaux, aux personnes, enfin voilà, à des bouquins où je lisais pas trop avant. Bah, je me suis dit, ouais, c'est quelle perte de temps, quoi. J'étais obstiné, donc voilà, n'hésitez pas à me questionner sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait je réponds à tout le temps à tout le monde, et ça me plaît bien, parce que voilà, je sais d'où je viens, hein, et je sais ce que c'est, comme toi, de faire son marathon, de décrocher son premier dossard et tout, et c'est des moments magiques, quoi. Donc voilà, si on peut les faire avec en se faisant plus plaisir, et puis si après on a envie d'atteindre un peu de performance, de s'améliorer dans un but qui est spécifique à chacun, bah, moi j'aime bien partager tout ça.
Voilà, et ben je te remercie beaucoup en tout cas pour ce partage. Je recommande une nouvelle fois d'aller voir ton TEDx, parce que je trouve vraiment formidable. Et puis tu fais vivre cette aventure, et le message est vraiment magnifique. C'est vrai, hein, c'est des TEDx où on s'ennuie un petit peu, faut dire aussi. Puis celui-ci, moi je trouve vraiment. Et puis je pense qu'il va. Les gens s'attendent pas en fait, ils s'attendent pas au petit au message, ouais, qu'il y a derrière, etc. Je trouve que c'est un magnifique message, une manière, ouais, magnifique manière aussi de partager des belles valeurs. Hein, que, ouais, qu'il y a dedans. Et je voulais te remercier aussi pour ce TEDx, parce que je partage autour de moi, parce que je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui trouveront beaucoup de belles valeurs à l'intérieur. Et c'était aussi un petit clin d'œil que je voulais te faire, parce que vraiment, j'ai trouvé vraiment extrêmement sympa et vraiment super bien. Voilà, merci beaucoup, 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 Cyril. On va te suivre partout. Et bien sûr, je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode, parce que j'ai noté tous les comptes Instagram, les vidéos, les tout ça, tout ça, tout ça, pour arriver à te suivre et suivre ben, tes aventures, et notamment ben, ce défi hein, de summum, hein, que tu as dit ça. Ben, on va suivre ça de très près. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, et puis longue vie à ce nouveau podcast.
Ben, merci, et puis on se retrouve ben, dans 15 jours pour un nouvel épisode, et on verra quel est l'invité. Je vous le dis pas, ça va être la surprise. Ben oui, c'est le début comme ça, on va mettre ça tout ça en place. Et merci d'avoir été, quelque sorte, un peu le parrain hein, de cette...
Ah, génial, et ben,
on va balancer une petite bouteille de bière au miel dessus, pam, on va, ouais, la casser, et on va fêter ça dans la joie et la bonne humeur que tu as partagée avec nous. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.